Vous écoutez, on lit pour vous.
Reprendre le contrôle. Un texte de François Cardinal, qui est éditeur adjoint de La Presse, publié dans l'édition du 31 janvier 2026 de ce journal. Nous entamons aujourd'hui le premier volet d'une série d'envergure appelée « Enquête de solutions », qui s'étirera sur une semaine complète et qui se répétera chaque mois de 2026 jusqu'en décembre. Nos journalistes, vidéastes et photographes sillonneront la planète pour nous ramener une foule de solutions en réponse à certains enjeux les plus criants du Québec. Ils vont aller où ça fonctionne, en somme, pour comprendre comment et pourquoi. 12 enjeux, 12 mois. Et des douzaines de pistes concrètes pour nous permettre collectivement de reprendre le contrôle. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, reprendre le contrôle. Le premier thème de cette grande aventure journalistique s'intéressera à notre dépendance aux écrans de toutes sortes, à nous tous, petits et grands. Ces appareils, devenus une extension de nous-mêmes, nous accompagnent du réveil au coucher, nous informent, nous divertissent, nous connectent au monde, mais ils nous rendent aussi plus sédentaires, moins sociaux, plus anxieux, plus malades. Ils captent notre attention au point de nous en priver pour tout le reste. Une étude de la Santé publique de Montréal, publiée ces derniers jours, a justement révélé que cet enjeu touche tout le monde, des enfants aux aînés, et que les conséquences débordent largement du simple temps perdu. C'est notre santé physique et mentale qui est en jeu, disent des chercheurs. Et c'est toute la société qui est concentrée par ce qui a des airs de perte de contrôle collective. Le parallèle avec notre projet « Enquête de solutions » n'est pas fortuit. Car ce que nous cherchons à faire avec cette série, c'est précisément de vous redonner prise sur ce qui nous semble vous échapper. Des clés pour comprendre, mais aussi pour imaginer l'avenir. Des témoignages, des inspirations ramenées des quatre coins du monde, qui nous permettront d'envisager des solutions à certains de nos grands problèmes de société. Ce projet, c'est une volonté d'élargir notre couverture journalistique en allant au-delà du constat des problèmes auxquels nous devons faire face. Nous voulons explorer des pistes de réponse afin de vous redonner de la perspective. Concrètement, nous mettrons en lumière chaque mois, pendant une semaine, un enjeu majeur, en commençant par un état des lieux. 2 équipes de journalistes nous présenteront ensuite des solutions concrètes qu'ils ont trouvées ici et ailleurs. Le fruit de ce travail de terrain vous sera offert sous de multiples formes, en texte, en photo, en graphisme, mais aussi en vidéo et en balado. Le tout sera accompagné de chroniques de textes de nos collaborateurs, de panels, de lettres d'experts et de vos réactions à vous, chers lecteurs. Pour ce premier dossier sur les écrans, nos reporters se sont notamment rendus en France, où une initiative née au Pays Basque fait tache d'huile depuis quelques années. Le défi 10 jours sans écran. C'est à lire demain. Et nous avons exploré la Suède où une mosaïque de solutions s'offre à ceux qui cherchent à décrocher, à créer des moments sans cellulaire dans la routine de chacun. La Suède nous intéressait d'autant plus que, de manière paradoxale, le pays de Spotify et de Minecraft est une sorte de Silicon Valley européenne. À lire aujourd'hui. L'objectif de ce projet d'envergure est simple. Transformer l'inquiétude en action, le sentiment d'impuissance en élan collectif. Parce que les solutions existent quelque part. Il suffit d'aller les chercher, de les raconter, de les faire partager. C'est exactement ce que nous ferons, mois après mois, pour que 2026 soit une année d'inspiration et d'action. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce texte d'introduction à une série du journal La Presse titré « Enquête de solution ». Ce texte est signé par l'éditeur adjoint de La Presse, François Cardinal, sous le titre « Reprendre le contrôle », publié dans l'édition du 31 janvier 2026 du journal.
Le chant pour que le brouillard se dissipe. Un texte de Rosemée Autonneté Morin, paru le 26 novembre 2025 dans La Presse. Le brouillard mental, vous connaissez? On cherche ses mots, on a des trous de mémoire, on navigue de petites confusions en grande fatigue. Certains parlent de « brain fog », d'autres de « brouillard cérébral ». Pour la plupart, c'est généralement passager, mais jusqu'à 75 % des personnes touchées par le cancer qui ont reçu de la chimiothérapie composent avec ces troubles cognitifs. Et le quart d'entre elles en subissent toujours les effets 10 ans après le traitement. Pour les aider, l'équipe interdisciplinaire Art et Santé du Centre de recherche Charles Lemoine s'est alliée à l'Opéra de Montréal. Objectif? Déterminer si le chant choral peut réduire le brouillard cérébral. Quel est le lien entre l'opéra et la chimio, vous demandez-vous peut-être? Suivez-moi. L'oncologue Catherine Pradi et Dominique Tremblay, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, travaille auprès de personnes qui ont eu le cancer. Plusieurs parlent des effets du brouillard mental sur leur boulot, leur estime de soi et leurs relations. Certains proches pensent que lorsqu'un cancer est guéri, les choses reviennent à la normale. Or, la vie n'est jamais la même après la maladie. Des études portent déjà sur les bienfaits du chant choral chez les personnes touchées par un cancer. Très peu abordent le brouillard mental, mais ce qu'elles avancent est prometteur. Amélioration de l'humeur, de l'énergie et du bien-être. Réduction de la fatigue et de l'anxiété. Aucun effet négatif. La docteure Pradi, Dominique Tremblay et la neuropsychologue Sylvie Coallier ont vu là une avenue à explorer plus sérieusement. Depuis le printemps, 15 femmes ayant eu un cancer du sein se rassemblent donc à Longueuil pour chanter sous la direction de la soprano et chef de chœur Myriam Leblanc. Violaine Lapointe était terrorisée lors de la première rencontre. À 76 ans, elle a réalisé que non seulement elle pouvait chanter juste, mais aussi que l'activité l'apaisait. « Mon cerveau est très embrumé », témoigne-t-elle. « Ça me permet de me concentrer sur quelque chose de beau. Ma tête arrête d'être fofolle. C'est vraiment reposant. » Stéphanie Poirier, 49 ans, a vu son organisation, sa mémoire de travail et sa rétention de nouvelles informations affectées par la chimiothérapie. Elle ne s'attendait pas non plus à rejoindre une chorale. Lorsqu'elle chante devant ses petits, il la supplie d'arrêter. Mais elle reconnaît aujourd'hui les bienfaits de la pratique. La vie est un feu roulant. Avant d'arriver ici, j'ai préparé le souper de mes 3 enfants et j'ai fait 2 brassées. J'arrive, paquet de nerfs. Mais quand je repars, je suis dans un état second. Ça me plonge dans le moment présent. Selon elle, l'initiative doit une partie de son succès à Myriam Leblanc. J'avoue qu'elle est impressionnante. Au fil de la répétition, Myriam livre un véritable one-woman show derrière son piano. Elle dirige le chœur avec une habileté saisissante, un humour incisif et une tendresse évidente. La soirée débute par des réchauffements lors desquels on respire et pousse des sons qui font du bien, dixit la soprano. J'écris « on » parce que toute personne venue observer se doit de participer on m'a bien prévenu. Myriam nous enjoint de ne jamais être blasés, de prendre toute la place et de sortir notre folie intérieure. Quand elle nous voit crispés, elle se moque gentiment de nous. Si vous dites à votre face que vous aimez ça, le son va sûrement aimer ça aussi. Elle nous apprend à nous détendre et à respirer pour mieux chanter. Autour de moi, que des femmes qui vibrent joyeusement, qui vivent. Faux, il y a également deux hommes pour assurer les notes basses, dont Pierre Vachon, directeur Action sociale et éducation à l'Opéra de Montréal. Le musicologue a été interpellé par la proposition de la docteure Prady et son équipe. D'abord, parce que ça fait près de 10 ans que l'Opéra de Montréal développe des projets en santé. Ensuite, parce que son mari est décédé du cancer. C'est venu toucher une corde sensible. Pour déterminer quels sont les bienfaits du chant d'opéra sur le bien-être physique, le groupe s'est également associé à des chercheurs de l'Université d'Ottawa. Le projet a pris une dimension intersectorielle que Dominique Tremblay applaudit. La professeure, aussi chercheuse régulière au Centre de recherche Charles Lemoine, croit que le silo de la médecine a ses limites et que la collaboration mène ici à de vrais changements. Les participantes doivent remplir un questionnaire avant et après chaque séance, puis se soumettre à des entrevues périodiques. Des analyses intérimaires permettent déjà à Dominique Tremblay d'affirmer que le chant choral entraîne une différence significative dans la fatigue ressentie par les femmes. La dernière prise d'information a eu lieu le 27 novembre dernier à l'occasion de la 24e et dernière séance du projet de recherche. Un statisticien s'est mis au travail et, si tout va bien, les résultats finaux du projet seront publiés en février 2026 après une évaluation scientifique par les pairs. J'ai étudié en sciences molles, alors tout ce que je peux affirmer, c'est que l'initiative est touchante. Les femmes entonnent la barcarolle d'Offenbach et la flûte enchantée de Mozart, en riant de leur accent allemand, avant de passer à « I will follow him », version rock'n'roll, et « Nous aurons » de Richard Desjardins. Leur voix me touche, leur bien-être manifeste aussi. Le chant choral ne sauve pas des vies, mais il contribue à mettre du beau dans la vie, estime Dominique Tremblay. Et il faut s'attarder au brouillard mental. Avec l'augmentation du nombre de personnes atteintes par un cancer, de plus en plus de gens vivront l'après-cancer. C'est une bonne nouvelle, mais il faut savoir les aider. Des projets comme celui-là, il pourrait y en avoir partout au Québec. Comme le chantent Desjardins et les femmes qui m'entourent. S'il n'y a pas de lune, nous en ferons une. C'est une question d'espoir. C'était le chant pour que le brouillard se dissipe, un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 26 novembre 2025 dans la presse.
Quels sont ces corps flottants, parfois présents dans vos yeux? Un texte de Morgane Petit, paru le 21 décembre 2025 dans Science et Vie. Des vers dans vos yeux? Non, ce n'est pas un film d'horreur. Malheureusement, ça peut parfois arriver. Cependant, c'est très rare et ce n'est pas parce que vous voyez des espèces de taches qui semblent se mouvoir dans votre œil que vous êtes infecté. En réalité, ces taches traduisent une affection bénigne de l'œil, sans gravité et qui ne nécessite que rarement un traitement. Pour autant, les parasites dans les yeux, oui, ça existe. Des vers ou des mouches dans les yeux? Rassurez-vous, il y a très peu de risques que vous ayez des mouches ou des vers dans les yeux. Par contre, des petites choses qui se baladent, ça, c'est tout à fait possible. En effet, plusieurs personnes se plaignent parfois de voir des petites formes irrégulières qui se déplacent lentement dans votre champ de vision. On parle souvent de corps flottants. Ils apparaissent lorsqu'un objet se trouve à l'intérieur de notre œil et projette une ombre sur notre rétine. Cette dernière est la structure sensible à la lumière et qui se trouve au fond de l'œil. Il ne s'agit en rien de parasites ou d'autres particules venues de l'extérieur. Ces fausses mouches se présentent sous différentes formes. On peut observer des petites taches sombres ou points noirs, des fils ou filaments ou encore des espèces de vers ou même des fragments qui ressemblent à des toiles d'araignée. Mais là encore, on vous le redit, aucun animal ou parasite n'a élu domicile dans vos yeux. Pour autant, il ne s'agit pas d'illusions d'optique. Ces petits fragments sont bien présents et sont en fait des débris qui flottent dans l'œil, plus précisément dans le corps vitré. Ce dernier est une sorte de liquide gélatineux, transparent et incolore qui se trouve à l'intérieur du globe oculaire, entre le cristallin et la rétine. Avec le vieillissement de l'œil, on peut parfois observer un décollement postérieur de ce corps vitré qui se traduira par l'apparition des fameux débris et corps flottants. On parle d'une pathologie bénigne, la myodésopsie. La myodésopsie, des vers dans vos yeux dus au vieillissement. Ces vers dans vos yeux proviennent donc du vieillissement du corps vitré. Ce dernier va se liquéfier et son enveloppe se fragmente et se détache de la rétine. Le stress et la fatigue sont également responsables de la fragmentation, en particulier chez les personnes de moins de 30 ans. Les fragments, en se détachant, flottent ensuite dans la cavité de l'œil. Ce sont donc eux qui donnent naissance à ces fameux corps flottants. Parfois, des flashs lumineux peuvent aussi accompagner les corps flottants. Ils sont causés par des tractions exercées par l'enveloppe du corps vitré sur la rétine lorsque cette enveloppe se détache. Ces tractions sont traduites par le cerveau comme l'impression d'éclairs lumineux. Les vers dans vos yeux et les éventuels flashs sont donc les symptômes de la pathologie bénigne, la myodésopsie. Pour en être sûr, il est possible de réaliser un examen du fond de l'œil pour confirmer la présence des fragments et dépister d'éventuelles complications. En effet, normalement, cette pathologie ne nécessite aucune prise en charge et aucun traitement. Il n'y a pas d'impact sur l'œil ou la vision et ce décollement évolue favorablement. Les corps flottants diminuent progressivement, supprimant donc l'éventuel gêne occasionné. Donc, si vous avez des vers dans vos yeux, très souvent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cependant, dans de très rares cas, il peut y avoir quelques complications. De très rares complications peuvent apparaître. Parfois, le décollement postérieur du vitré peut s'accompagner de complications. Cependant, elles restent très rares. Il s'agit principalement de déchirures ou d'un décollement de la rétine. Les déchirures rétiniennes se caractérisent par l'apparition de déchirures dans l'épaisseur de la rétine. On l'a vu précédemment, le décollement du corps vitré entraîne des tractions sur la rétine. Habituellement, ces tiraillements n'ont aucun impact, mais très rarement, ils peuvent causer des déchirures sur la rétine. Ces déchirures peuvent, quant à elles, entraîner un décollement de la rétine. Le liquide du corps vitré s'engouffre dans la déchirure, s'insinue sous la rétine et la décolle de la paroi. En cas de décollement de la rétine, les patients se plaignent d'une perte de leur champ visuel, perte qui peut s'étendre avec la progression du décollement. Cela se traduit par l'apparition d'une zone sombre, comme un rideau qui obstrue le champ de vision. Le traitement des déchirures se fait par photocoagulation laser, une manière de souder la rétine à la paroi, ce qui empêche l'entrée du liquide dans la déchirure. Par contre, en cas d'un décollement de la rétine, il faudra opérer l'œil à temps. Quant au verre dans vos yeux, les corps flottants, il arrive dans de très rares cas qu'ils deviennent vraiment gênants. Il faut alors réaliser un traitement chirurgical pour supprimer ces corps flottants ou les tractions vraiment douloureuses ou dangereuses pour la rétine. Mais pouvez-vous vraiment avoir des verres dans vos yeux? Eh bien, oui. Si les corps flottants ne trahissent en rien la présence de verres dans vos yeux, vous pouvez malgré tout être contaminé par des parasites. Il existe plusieurs parasites qui peuvent nous contaminer. On trouve notamment le nématode, ver rond, loa loa, endémique des forêts tropicales d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce dernier est à l'origine de la loase, une pathologie due à la présence de ces parasites. La plupart du temps, les personnes parasitées n'ont pas de symptômes. Cependant, parfois, elles se plaignent de gonflements qui démangent sur les bras et les jambes. En outre, il arrive que les vers migrent dans les yeux, provoquant des douleurs et des gênes plus ou moins importantes. Seul un traitement médicamenteux permet de venir à bout du ver. Des mouches non piqueuses peuvent aussi parasiter les yeux des humains avec leurs larves. Les personnes infectées souffrent alors d'une ophtalmomyase externe. Les larves colonisent les tissus oculaires et provoquent des symptômes semblables à une conjonctivite aiguë. Habituellement, ces mouches ne colonisent pas les humains et le parasitisme se fait de manière accidentelle lorsque la mouche, Mia, heurte accidentellement l'œil de la personne et y dépose au vol ses œufs. Pour résumer, vous avez peu de risques d'avoir des vers dans vos yeux. La plupart du temps, il s'agira donc seulement de débris issus d'un phénomène naturel et bénin. Pas d'inquiétude. C'était « Quels sont ces corps flottants parfois présents dans vos yeux ?» un texte de Morgane Petit, paru le 21 décembre 2025 dans « Science et vie ».
Soutenir la santé mentale des jeunes familles francophones en Colombie-Britannique. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, publié le 15 janvier 2026 dans The La Source. Réseau Femmes Colombie-Britannique, en partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale, propose aux parents et tuteurs d'enfants âgés de 0 à 2 ans, du 21 janvier au 11 mars, la formation en ligne intitulée « Vivre sa vie pleinement » sur le bien-être mental. Marie-Paul Berthiaume, initiative de journalisme local, journal La Source, selon le Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, les troubles de santé mentale figurent parmi les problèmes de santé les plus fréquents, affectant une mère sur cinq en fin de grossesse et durant la période postpartum. Anaïs Bénard, représentante du groupe Maman francophone de RFCB, organise des événements postpartum à l'intention des francophones de la province. Originaire de France et mère d'une fillette de 17 mois, née à Vancouver, elle met en évidence l'importance d'un accompagnement en français pendant la période postnatale. Le plus grand défi pendant le postpartum a été de gérer ma santé mentale. Le manque de sommeil, l'inconnu, la pression, tout ça pèse lourd, confie-t-elle. Et en Colombie-Britannique, les ressources gratuites sont majoritairement en anglais. Quand ça va moins bien, parler dans sa langue maternelle, ça fait toute la différence. Selon elle, l'isolement constitue un facteur qui aggrave les symptômes de santé mentale chez plusieurs mères francophones, souvent éloignées de leur famille et de leur réseau de soutien. « Nous avons besoin d'être entourés. Être francophone en Colombie-Britannique, ça signifie souvent ne pas avoir sa famille ici. Il devient alors crucial d'avoir accès à des espaces qui permettent de se rencontrer, d'échanger et parfois même de se créer un village. Un enseignement axé sur des méthodes pratiques. Le cours « Vivre sa vie pleinement » adapté par l'Association canadienne de la santé mentale, ACSM, s'adresse à toute personne âgée de plus de 12 ans, faisant face au stress, à une baisse de morale ou à des défis de la vie quotidienne. Il se déroule sur 8 semaines, avec des séances hebdomadaires de 90 minutes. Basé sur les principes de la thérapie cognitivo-comportementale, la formation conçue par le psychiatre et professeur à l'Université de Glasgow, Chris Williams, vise à doter les participants d'outils pour mieux comprendre et gérer leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements au quotidien. Selon Melody Coster, gestionnaire national des cours « Vivre sa vie pleinement », bilingue, et « Enjoy your baby », en cours de traduction en français, pour l'ACSM, la période postnatale, et tout particulièrement la première année, est souvent marquée par un isolement social important. Le cours permet d'acquérir des outils pour mieux gérer certains symptômes liés au stress, etc., explique-t-elle. Grâce à sa nature collective et à son déroulement sur plusieurs semaines, le cours est un espace qui offre aux parents l'occasion de créer des liens, normaliser leurs sentiments et partager leurs défis. Elle ajoute que les deux animatrices certifiées de « Vivre sa vie pleinement » qui enseignent le cours, Claire Hodge et Marie Lacrampe, ont toutes deux participé au projet pilote « d'Enjoy Your Baby » l'an dernier et seront donc en mesure d'en utiliser les principes clés. C'était soutenir la santé mentale des jeunes familles francophones en Colombie-Britannique. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, publié le 15 janvier 2026 dans The La Source.